France Culture.
Le journal est signé Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Quentin, bonsoir à toutes et à tous. Le budget 2025 validé au Sénat en première lecture reste à trouver un compromis en commission mixte paritaire. D'ici là, les négociations vont être ardues, nous dira Rosalie Lafarge. La mort de Jean-François Kahn, fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne, Héloïse Roger retracera la carrière de ce journaliste passionné de politique. Nous irons à Kharkiv, en Ukraine. Face à l'avancée des troupes russes, les autorités vont ordonner l'évacuation d'enfants dans plusieurs localités de la région. Et puis Jacques Audiard exulte, son film Emilia Pérez récolte 13 nominations aux Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, mais aussi meilleure bande originale. Nous y reviendrons avec Louis-Valentin Lopez. Le projet de budget pour 2025 franchit l'étape du Sénat. Plus de trois mois après son dépôt au Parlement, le texte initié par Michel Barnier, rejeté par l'Assemblée nationale, suspendu après la censure de l'ancien Premier ministre, puis repris par son remplaçant François Bayrou, poursuit son parcours chaotique. Mais si le scrutin du jour était sans suspense pour le gouvernement, dans une chambre dominée par une alliance droite-centre qui le soutient, ça n'était qu'une étape. Bonsoir Rosalie Lafarge.
Bonsoir Aurélie.
La donne risque de se compliquer la semaine prochaine en commission mixte paritaire où députés et sénateurs doivent tenter d'aboutir à un texte de compromis, Rosalie.
Oui, parce que la guerre est déclarée entre les LR à droite et le PS à gauche. Si les socialistes n'ont pas soutenu la première motion de censure la semaine dernière à l'Assemblée, ils ont voté contre le budget au Sénat tout à l'heure. Leur chef de file sur ce texte, Thierry Cozic.
Le compte n'y est toujours pas, loin s'en faut. Nous ne ferons pas les frais de votre incapacité à contenir vos partenaires républicains qui, hier soir, n'ont rien trouvé de mieux que de ne pas respecter l'engagement de leur Premier ministre sur la suppression des postes d'enseignants. Je le redis, ne pensez pas que notre clémence se fera automatiquement sur l'autel de la sacro-sainte stabilité.
Le PS appelle le gouvernement à rendre des arbitrages cohérents, ressort la menace de la censure, mais les LR n'entendent pas tout céder à la gauche. La sénatrice Les Républicains Christine Lavarde défend la copie du budget validé cet après-midi.
C'est celui du Sénat, et plus précisément de la majorité sénatoriale, car c'est un budget responsable. En commission mixte paritaire, les représentants du groupe Les Républicains seront vigilants à ne pas dénaturer la copie du Sénat.
À défaut de satisfaire tout le monde, il va falloir tenter de ne froisser presque personne. Pas évident, mais faisable et surtout nécessaire, insiste la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.
Je suis raisonnablement confiante. En tout cas, en décembre, on avait la capacité de voter une loi spéciale et on pouvait se dire, on va avoir, pendant les premières semaines de janvier, la capacité de refaire un budget. Ben, on y est et on n'aura pas trois chances.
Et si ce chemin aboutit en commission mixte paritaire la semaine prochaine, il se poursuivra la suivante dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale avec soit un ultime vote des députés, soit l'utilisation de l'article 49.3, suivi dans ces cas-là d'une nouvelle motion de censure pour le gouvernement de François Bayrou.
La commission mixte paritaire, c'est cette instance de négociation qui réunit 7 députés et 7 sénateurs pour chercher donc un compromis entre les deux chambres du Parlement. Mais le gouvernement, associé à la droite, n'a pas systématiquement la majorité. Et comme il tient absolument à l'avoir la semaine prochaine, il a fait ses calculs et a mis à l'agenda ce jeudi matin une commission mixte paritaire, justement celle qui ne lui est pas favorable. Vous n'avez pas tout compris, c'est un peu technique. Alors justement, c'est vous, Stéphane Robert, bonsoir.
Bonsoir Aurélie.
C'est vous qui allez nous expliquer cette stratégie.
Oui, c'est une des conséquences de la dissolution décidée par Emmanuel Macron. Elle a conduit à une fragmentation des forces politiques à l'Assemblée nationale qui compte désormais 11 groupes parlementaires, un record sous la Ve République. Et ça a des incidences sur le fonctionnement des commissions mixtes paritaires où l'on doit retrouver les équilibres politiques de chaque Assemblée. Les 7 sénateurs et 7 députés qui siègent dans cette CMP sont donc désignés en fonction du poids des groupes politiques dans chacune des deux chambres. Pour la délégation sénatoriale, c'est simple. La droite dispose du groupe le plus important au Sénat, elle occupe 4 sièges sur 7. Le deuxième groupe, le groupe socialiste, dispose de 2 sièges et le dernier siège est occupé par un sénateur de l'Union centriste, ce qui fait que l'alliance de la droite et du centre compte 5 sièges sur 7. Ça ne bouge jamais. Pour l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus compliqué. Le Rassemblement national est le groupe le plus important. Il dispose de 2 sièges. Ensuite, les groupes macronistes, socialistes, insoumis et droite républicaine disposent d'un siège chacun. Et pour le dernier siège, il est tournant. Les groupes Horizon, Modem et écologistes y siègent une fois sur 3, chacun leur tour. La difficulté avec le Modem et Horizon font partie du camp présidentiel et que les écologistes sont dans l'opposition. Et donc, 2 fois sur 3, Le gouvernement associé à la droite dispose d'une majorité et une fois sur trois, on est à égalité, il n'a pas la majorité. Par conséquent, pour être sûr d'avoir la majorité quand c'est important, il est préférable qu'il programme en amont la commission mixte paritaire où il n'a pas la majorité sur un texte de peu d'importance. C'est vraisemblablement ce qu'il a fait aujourd'hui avec ce projet de loi qui traînait dans les cartons sur l'interdiction des vapoteuses à usage unique. La semaine prochaine, le député écologiste sera remplacé par un député Modem. Le gouvernement, avec la droite, retrouvera donc la majorité pour l'examen du budget en commission mixte paritaire.
Merci pour ces explications, Stéphane Robert. Le ministre de la Justice annonce plusieurs mesures destinées à améliorer la sécurité et la dignité des prisons. La première prison de haute sécurité pour narcotrafiquants sera réalisée le 31 juillet, affirme Gérald Darmanin. Il promet par ailleurs le doublement des places de semi-liberté pour un total de 3000 d'ici 2027. Le journaliste Jean-François Kahn est mort. Le fondateur de l'événement du jeudi et de Marianne avait 86 ans. Fils du philosophe Jean Kahn, frère du généticien Axel Kahn, Jean-François Kahn était engagé au centre. Il s'était présenté sur une liste Modem aux européennes de 2009. Le journaliste s'était mis en retrait en 2011. Bonsoir Héloïse Roger.
Bonsoir Aurélie, bonsoir à toutes et à tous.
C'est une polémique qui a entraîné la fin de sa carrière.
Le 14 mai 2011, Dominique Strauss-Kahn est arrêté à New York. Il est accusé de viol par une employée du Sofitel, Nafissa Toudiallo. Deux jours plus tard, Jean-François Kahn est invité sur France Culture et il évoque l'affaire.
Qu'est une imprudence, on peut pas le... je sais pas comment dire. Un troussage.
Il appelait ça une erreur de jugement.
Qu'il y ait un troussage de domestique, enfin, je veux dire, ce qui n'est pas bien. Mais je mets, voilà, c'est une impression.
Un troussage de domestique, une imprudence, les mots de l'essayiste font grand bruit et le poussent à s'effacer de la scène médiatique. Celui qu'on surnommait JFK, à la très longue carrière journalistique, n'était pourtant pas prédestiné à faire ce métier. Écoutez son témoignage dans Avoix Nue, c'était en 2022 sur notre antenne au micro de Caroline Bonacossa.
Dans vos mémoires d'outre-vie, vous dites que vous vouliez être capitaine de navire, archéologue, commissaire de police... Prof de philo, écrivain, c'est quoi le lien entre ces métiers ?
Non, mais j'ai dit ça, c'est pour montrer que la seule chose que je voulais pas être, c'est journaliste. C'était plutôt une réaction de lâcheté que de courage.
Par rapport à l'enseignement, que vous trouviez difficile ?
Il y a eu une opportunité.
Et tout va très vite. À 21 ans, il part couvrir la guerre d'Algérie pour Paris Presse.
J'arrive en Algérie, j'entends une explosion. C'était une voiture piégée qui avait explosé. 60 morts déchiquetés. Ça me fait une saisie. Il fallait que j'écrive l'article, c'était un événement extrêmement important. À l'époque, j'avais pas de machine, c'était à la main. Je n'ai jamais pu écrire l'article tellement je tremblais.
Il travaille pour Le Monde, L'Express, couvre également la guerre du Vietnam, révèle l'affaire Ben Barka, l'opposant marocain enlevé en plein Paris par des policiers en 1965, devient éditorialiste pour Europe 1 et puis lance son propre média avec un concept novateur. Faute d'argent, les lecteurs sont actionnaires du journal. En 1984 naît donc l'événement du jeudi pour transcender les clivages gauche-droite, évoque Jean-François Kahn. Il comptera 30 000 adhérents avant de cesser 10 ans plus tard. Sa liberté de parole lui aura valu son licenciement d'Europe 1 en 1986. Toujours fidèle à ses convictions, il crée un deuxième média, Marianne, en 1990.
Il y a des choses que je voyais monter, des choses qu'il fallait dire. C'est tout ce qui se passe aujourd'hui en vérité. Il y avait un danger sur la République, il y avait un danger sur la démocratie, il y avait un danger sur la laïcité. Il faut le dire. Je n'avais pas envie de refaire un journal. J'avais vécu des moments très difficiles. Vraiment, si personne ne le fait, il faut qu'on le fasse.
Et le nom de ce média a tout de suite interrogé.
Même autour de moi, même des amis. Pourquoi t'as pris un titre d'extrême droite avec une image d'extrême droite ? C'est-à-dire qu'on en était arrivé au point, et c'est ce que la gauche paye aujourd'hui, où le mot « Marianne » et le drapeau bleu-blanc-rouge étaient considérés comme le signe d'une dérive vers l'extrême droite.
Auteur de nombreux ouvrages, Jean-François Kahn venait tout juste de terminer un livre sur le retour du fascisme. À l'annonce de sa mort, les réactions ne se sont pas faites attendre, notamment celle de François Bayrou, qualifiant Jean-François Kahn d'homme rare à l'incroyable créativité. Des louanges à un de ses fidèles, l'homme de presse lui avait apporté son soutien aux élections présidentielles de 2007 et 2012.
Héloïse Roger, la Fonderie de Bretagne est placée en redressement judiciaire, une décision du tribunal de commerce de Rennes, à la demande de la direction de l'ancienne filiale du constructeur automobile Renault. Elle était en cessation de paiement depuis le 15 janvier. Le directeur du site de Caudan dans le Morbihan espère qu'un nouveau repreneur sera trouvé d'ici la fin de la période d'observation qui court jusqu'au 23 juillet. 350 emplois sont en jeu. Il clame son innocence depuis 30 ans. Dany Le Prince, condamné à perpétuité pour le quadruple meurtre de son frère et de sa famille en 1994 dans la Sarthe, remporte aujourd'hui une victoire. Celui que la presse sa surnommée le boucher de la Sarthe, avait saisi la Cour de cassation dans l'espoir d'obtenir un nouveau procès. Elle vient de décider de transmettre sa requête à la Cour de révision. Charge à elle de casser ou non sa condamnation, Aurélien Tirard.
Dany Le Prince affiche un large sourire à la sortie de la salle d'audience. En seulement quelques minutes, les trois magistrats de la Cour de cassation lui donnent raison, sensible à deux de ses arguments présentés lors de l'audience en décembre. Deux éléments susceptibles de faire douter de sa culpabilité ou de montrer son innocence. La Cour de cassation se base sur une reconstitution faite par la police judiciaire sur les lieux du crime, il y a seulement 2 ans. Les résultats de cette reconstitution remettent en cause le témoignage de la propre fille de Dany Le Prince, 15 ans à l'époque, elle qui assure avoir vu son père agresser son oncle. Deuxièmement, le témoignage de la seule rescapée des meurtres, Solène, la nièce de Dany Le Prince. Elle avait alors 2 ans. Son témoignage à l'époque était à charge contre son oncle. 30 ans après, elle affirme avoir désormais de sérieux doutes sur la culpabilité de Dany Le Prince et demande à ce qu'il soit rejugé. La Cour de révision a désormais 1 an pour examiner sa demande. Il est possible que cette Cour rejette sa demande comme elle l'avait fait une première fois en 2011.
Le président ukrainien réclame toujours des armes, des systèmes de défense aérienne et des sanctions contre la Russie. Malgré le coup de pression de Donald Trump sur Vladimir Poutine hier pour que Moscou conclue un accord avec Kiev, l'Ukraine a subi aujourd'hui une nouvelle série d'attaques. Et dans la région de Kharkiv, où les frappes russes s'intensifient, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de familles. Nous retrouvons notre envoyé spécial à Kharkiv. Bonsoir Claude Guibal.
Bonsoir.
16 localités sont concernées, Claude.
Oui, 16 localités, car en fait c'est toute la région qui subit un assaut qui s'est intensifié encore ces derniers jours avec la prise revendiquée hier par l'armée russe d'un village de l'autre côté de l'Oskil, une rivière qui marque ici une ligne de front stratégique. L'armée russe continue donc son avancée vers Koupiansk, dans la région de Kharkiv, où nous nous trouvons donc. Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine. Ici, on entend les sirènes toute la journée, la nuit, prévenir d'attaques de drones notamment, qui larguent leurs charges s'ils ne sont pas interceptés. Des drones qui ont encore tué une femme aujourd'hui près de Koupiansk, mais à Kharkiv, la population en fait ne panique pas. Hier soir encore, à l'heure du dîner, une explosion retentissait. C'était 5 frappes sur la ville, sans causer de pertes humaines. La banalité presque de cette guerre, dont les Ukrainiens souhaitent évidemment la fin, mais pas à n'importe quel prix. On nous le répète, les gens ici veulent de vraies garanties de sécurité. Lorsqu'ils disent cela, ils font référence au mémorandum de Budapest, signé dans les années 80. Des accords internationaux qui garantissaient à l'Ukraine son intégrité territoriale et sa sécurité en échange de son renoncement à l'arsenal nucléaire présent sur son territoire. Un jeu de dupes, disent aujourd'hui les Ukrainiens qui veulent la certitude d'être protégés d'une nouvelle agression russe après un éventuel cessez-le-feu par une adhésion à l'OTAN ou par l'envoi de troupes étrangères. 200 000 soldats minimum, selon Volodymyr Zelensky hier.
Merci Claude Guibal, en direct de Kharkiv avec Alexandra Bergel à la technique. L'Allemagne, toujours sous le choc au lendemain de l'attaque au couteau dans une ville de Bavière, un nouvel attentat commis par un déséquilibré, instrumentalisé par l'extrême droite qui met en avant le projet phare de son programme, la remigration. Pour contrer cette offensive, le candidat de la CDU, Friedrich Merz, présente un plan promettant un changement fondamental de la politique d'immigration du pays. David Philippot.
L'air grave, Friedrich Merz en costume et cravate sombre fait d'abord référence aux 4 attentats commis ces 7 derniers mois en Allemagne.
Ich weigere mich anzuerkennen, dass die Taten von Mannheim, Solingen.
Je refuse de reconnaître que les actes de Mannheim, Solingen, Magdebourg et maintenant Aschaffenbourg soient la nouvelle normalité en Allemagne. La coupe est pleine. Nous nous trouvons devant le champ de ruines d'une politique d'asile et d'immigration désorganisée en Allemagne depuis 10 ans.
Asyl und Einwanderungspolitik.
Le candidat de la droite coupe les ponts avec la politique d'ouverture de sa prédécesseur, Angela Merkel. Gage de sa fermeté, Merz veut des expulsions quotidiennes, des contrôles permanents à toutes les frontières du pays, ainsi que le refoulement systématique des sans-papiers qui tentent d'entrer illégalement sur le territoire allemand, quitte à surseoir aux règles européennes sur le droit d'asile. Le favori des sondages met déjà en demeure ses probables partenaires de coalition, qu'ils soient sociaux-démocrates ou écologistes.
Et celui qui voudra gouverner avec moi devra accepter ces mesures. Il n'y aura pas de compromis sur ce sujet.
Selon 2 sondages, un électeur allemand sur 3, à 1 mois du scrutin, ne sait toujours pas pour quel candidat voter. C'est un record dans l'histoire de la République fédérale. Et le candidat de la droite veut empêcher que ces indécis, insécurisés par ces attentats en série, se fixent à l'extrême droite.
David Philippot à Berlin. Le tribunal de Liverpool vient de condamner au moins 52 ans de prison le jeune homme qui a tué trois fillettes l'été dernier à Southport, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Les fillettes avaient été poignardées pendant un cours de danse, un crime qui a horrifié le Royaume-Uni et déclenché de violentes émeutes anti-immigration. Retour sur ce verdict et sur la dernière journée d'audience avec notre correspondant Richard Place.
Je survis pour vous. Leanne Lucas s'adresse aux familles et aux autres victimes. La professeure de danse a reçu 5 coups de couteau ce jour-là. Elle a subi la folie meurtrière d'Axel Rudabukana, arrivé là dans un taxi réservé sous un faux nom. Il est armé de lames. Son projet est clair. Les vidéos projetées dans le tribunal montrent la stupeur et la panique des enfants et des adultes qui fuient, certains couverts de sang. Dans la salle d'audience, le meurtrier est agité, il est exfiltré 2 fois, hurlant qu'il est malade, qu'il ne va pas rester silencieux. Après avis médical, le juge tient à ce qu'il revienne, estimant que le jeune homme veut éviter de faire face aux victimes de ses crimes et à la justice. Juste après les meurtres, les réseaux sociaux se faisaient l'écho de rumeurs lancées par des agitateurs d'extrême droite, affirmant que l'assaillant était un migrant musulman sans papier qui venait de traverser illégalement la Manche, provoquant plusieurs jours d'émeutes dans le pays contre les immigrés. Rudabukana est né et a grandi au Royaume-Uni de parents chrétiens.
La part des énergies fossiles recule dans le mix énergétique européen. Le think tank Amber publie son rapport sur la production d'électricité européenne pour l'année 2024. Et en ces temps de marasme écologique renforcé par le retour de Donald Trump à la Maison Blanche, les conclusions de ce rapport sont étonnamment encourageantes. Camille Magnard, la percée du solaire retient particulièrement l'attention.
Pour la première fois l'an dernier, l'énergie solaire a été utilisée pour produire plus de 10% de l'électricité européenne. Alors que, dans le même temps, tout un symbole, la part du charbon, énergie la plus polluante, passe, elle, sous les 10%. On avait observé en 2023 la même bascule entre l'éolien et le gaz. Elle se confirme avec l'an dernier 17% d'électricité produite à partir de l'éolien, contre 16% avec du gaz naturel, autre énergie fossile qui voit sa part dans le mix européen diminuer pour la 5e année de suite. La guerre en Ukraine et la volonté des 27 de se sevrer de gaz russe n'y est bien sûr pas pour rien. Tout ça va dans le bon sens, c'est une tendance lourde qui s'est installée depuis le pacte vert européen de 2019. Selon l'économiste chef du centre énergie de l'Institut Jacques Delors, Phuc Vinh Nguyen, et c'est le résultat de politiques publiques qui ont poussé au développement des renouvelables. Mais cet effort politique doit être poursuivi, insiste le think tank Amber, notamment sur l'éolien qui continue à se développer mais qui n'a pas bénéficié de bonnes conditions de vent cette année. L'éolien est aussi de plus en plus mal accepté par les populations européennes et pourtant l'enjeu est considérable, comme le souligne le rapport. Avec ce chiffre, la montée en puissance des renouvelables a permis à l'Europe de ne pas importer depuis 2019 l'équivalent de 60 milliards d'euros de sources d'énergie fossile, gaz ou charbon, avec les économies aussi, bien sûr, en matière de gaz à effet de serre qui n'ont pas été rejetées dans l'atmosphère.
Camille Magnard. Jacques Audiard se dit immensément heureux et il y a de quoi. Son film Emilia Pérez récolte 13 nominations aux Oscars. Cette étonnante odyssée musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain devient ainsi le film non anglophone le plus nommé de tous les temps. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur film international, meilleure bande originale aussi, Louis-Valentin Lopez, pour une musique composée par Clément Ducol et la chanteuse Camille.
The nominees for Achievement in Music, Original Score. Emilia Pérez.
La BO d'Emilia Pérez est le fruit de 4 années de travail, étroite collaboration entre les compositeurs et Jacques Audiard, qui souhaitait que la musique soit au service de la narration. Clément Ducol au micro de Laurent Vallière sur France Musique.
On voulait que les chansons disent, fassent avancer le film. Et sur le mode cardiaque, justement. Vous voyez, c'est cette double chose. C'est à la fois le chant me donne une espèce d'émotion immédiate, comme ça. Et en même temps, les chansons ont un propos.
Influence reggaeton, rock, pop, mariachi, la bande originale à les thèmes de la transidentité, de la corruption, de l'injustice aussi, comme dans la chanson El Allegato, interprétée par l'actrice Zoé Saldana. Son autrice, Camille, décrit le processus de composition.
On commence, je me souviens ça, j'avais eu cette idée parce que j'adore les mantras. Este caso, este caso, este caso.
Este caso, este caso, este caso.
Ce que cette affaire. Je me suis dit, ça va commencer comme ça. Puis hop, le rythme.
Vuelvo los hechos. De qué hablamos hoy a hoy.
Puis après, c'était des mots parlés. Puis après, j'ai construit la plaidoirie. De qué hablamos hoy ahora. Des phrases comme ça, très fortes et martelées, mais qui se répètent. Et puis petit à petit, ça devient un rap. Et puis après, le refrain de fin qui est très très pop.
cuando hablamos de violencia, hablemos de compasión.
Deux musiques du film concourent aussi dans la catégorie meilleure chanson originale, Mi Camino et El Mal. Cette dernière a déjà été couronnée d'un Golden Globe début janvier.
Le temps restera perturbé et pluvieux toute la journée demain sur les pays de la Loire, la Bretagne et jusqu'aux Hauts-de-France. Plus au sud, des nuages mais pas de pluie. Météo France prévoit des gelées nocturnes dans l'Est. L'après-midi, il fera 9 à 15 degrés du nord au sud, jusqu'à 20 sur le sud de l'Aquitaine.